Mon premier roman publié, j'en avais tout de suite commencé un autre, dont 300 pages environ étaient écrites quand l'éditeur Michel Lévy me les demanda pour les communiquer à Bulloz, le directeur de la revue des Deux Mondes. Il veut voir ce que vous faites, ajouta-t-il, pour me demander de faire autre chose, sans doute. Ma réplique était partie un peu vite. Je l'expliquais après avoir remercié Michel Lévy de son intervention. Quand, pour mes amants, vous avez, par peur d'un procès, exigé des suppressions, je n'ai pas hésité à reprendre mon manuscrit, bien que je ne vise pas du tout ce que j'en ferai, où je le placerai, et même si je le placerai jamais. Et pendant des mois, j'ai couru tous les éditeurs de Paris, acceptant d'interminables attentes, comptant les jours après les jours pour recevoir des réponses qui n'arrivaient jamais. Et cependant, il ne s'agissait que de coupures, qui, pour ennuyeuses qu'elles fussent dans le moment, n'engageaient pas du tout l'avenir. Tandis qu'avec Bulloz, ce n'est pas de coupures de ce genre qu'il s'agit. Ce qu'il demande à voir, c'est ce que je fais, afin de savoir ce qu'on pourra me faire faire plus tard. Ce qu'il veut, c'est prendre ma mesure, mesure du caractère plus encore que du talent, afin de se rendre compte de mon aptitude à entrer dans la livrée qu'il impose à ceux qu'il admet à écrire chez lui. Alors, je me tâte. Je suis si peu souple et, ce qui est pire, si rétif.
Vous pouvez toujours essayer. S'il vous impose des conditions qui vous déplaisent, vous les refuserez. S'il ne vous demande rien, je ne vois pas ce que vous auriez à refuser. À votre place, combien seraient heureux de se voir entrouvrir la porte devant laquelle vous vous cabrez sans même savoir ce qu'il y a derrière. Demain, je vous apporterai mon manuscrit.
Je n'aurais jamais eu l'idée de présenter mon premier roman à Bulloz, dont je croyais connaître l'esprit, mais puisque lui-même, après avoir lu ce premier roman, demandait à connaître le second, j'aurais été bien maladroit de refuser ses avances. D'ailleurs, toute chance de publication dans la revue mise de côté, et je ne me faisais guère d'illusions sur ce point, la proposition que me transmettait Michel Lévy avait pour moi cela d'intéressant qu'elle allait me faire faire la connaissance de Bulloz. Dans nos entretiens de jeunes que nous étions alors, Bulloz revenait à chaque instant et chacun parlait de lui selon ses espérances ou ses rancunes, ses opinions ou ses partis pris, bien plus que d'après la réalité. Était-il réellement le brutal qu'on disait, grossier, sans éducation d'aucune sorte et même sans instruction, qui, par la seule force d'une volonté persévérante, avait su pendant 30 années exercer une tyrannie humiliante sur le monde littéraire de son temps, le plier sous son despotisme et le faire travailler à sa fortune, sans que lui-même fît rien pour ceux qu'il exploitait, si ce n'est les payer misérablement avec accompagnement d'insolence et même quelquefois de gifles? Ou bien, ce qui semblait plus vraisemblable, avait-il acheté son succès par certaines qualités qu'on ne voulait pas voir? Puisqu'une occasion s'offrait de faire fonctionner pour moi seul ce terrible savoyard, j'allais passer un bon moment et, dans les dispositions où j'étais, m'offrir une amusante étude. Peu de jours après la remise de mon manuscrit, Michel Lévy, m'ayant prévenu que Bulloz m'attendait, je montai le petit escalier de la rue Saint-Benoît et, après avoir traversé un jardinet, j'entrais dans une espèce d'étude d'avoué de province où, derrière des bureaux noirs, de vieux clercs travaillaient silencieux. J'allais demander à l'un d'eux si M. Bulloz était visible, lorsqu'un œil dur, un seul, se fixa sur moi. C'était le maître. Je m'avançai et me nommai. Il ne répondit pas et continua à me regarder de façon à me faire comprendre que j'allais être mis à la porte. Je le savais borgne, mais j'ignorais qu'il fût sourd. Je lui tendis ma carte.
Pourquoi ne m'avez-vous pas apporté votre premier roman?
Me dit-il d'un ton rogue. Parce que je n'ai pas cru que vous le publieriez.
Je ne l'aurais pas publié, en effet, mais je vous aurais donné des conseils qui vous auraient servi pour votre second que je viens de lire et où il y a de l'intérêt, des caractères, de la composition, un style français, de la poésie même, mais tout cela noyé dans des défauts qui doivent être corrigés.
Et vigoureusement, comme s'il cognait à coups de serpe, il tailla dans mon roman en même temps qu'il m'indiquait comment je devais remplacer ses abatis. Ce fut seulement quand il se tut que je répondis. « Ce que vous m'indiquez là, c'est le roman « Revue des deux mondes ».»«
C'est le bon. » »«
Je ne dis pas qu'il n'ait pas été le bon, mais il n'est peut-être pas le seul bon. » »«
Il l'est pour moi. Des écrivains qui vous valent bien ont compris qu'ils avaient intérêt à suivre mes indications, et elles leur ont profité. » Voyez Octave Feuillet, il commence à bien faire. Je l'ai formé. Voyez Madame Sand, elle avait du génie. Quand elle n'a pas écrit à la revue, elle est devenue folle. Vous n'avez pas, je pense, la prétention de ne pas accepter des corrections.
C'est que, justement, je fais des romans pour dire ce qui me plaît, tout ce qui me plaît, et rien que ce qui me plaît.
Ah, ah, très bien. Vous verrez où cela vous conduit, jeune homme.
Si jeune que je fusse, je ne l'étais pas cependant au point de ne pas sentir la gravité d'un pareil avertissement. Le manque d'affabilité n'est pas la preuve qu'on ne connaît ni la vie, ni les hommes. Et en regardant d'où Bulose était parti pour arriver à créer la puissance qu'était la revue, à ce moment resté seul intangible au milieu du désastre des journaux, 1859, on ne pouvait pas prendre pour parole en l'air celle de ce bourru. Et elles avaient d'autant plus d'importance pour moi qu'elles précisaient, avec l'autorité de l'expérience, ce que je m'étais déjà dit. Il continua.
« L'intransigeance n'a jamais été utile à personne. Reprenez votre roman, corrigez-le dans le sens que je vous indique, et je le publierai, comme je publierai probablement les autres si vous n'en faites pas trop et suivez mes conseils. Il faut se châtier comme il faut se borner. » Si Alfred de Musset ne m'était pas revenu après avoir tâté des journaux, il était perdu.
Si la sagesse me faisait me soumettre, j'étais enrégimenté sous cette direction. Je n'avais plus qu'à écrire des romans sur le modèle connu, sans inquiétude et sans recherche. Jusqu'à un certain point, j'étais comme ces jeunes peintres qu'un petit succès vient de signaler à l'attention des marchands de tableaux, qui les enrôlent à leur service en leur achetant d'avance leur fabrication, réglés à l'avance aussi, et leur assure avec la fortune les honneurs officiels. Mais cela ne me tentait point. J'avais d'autres idées, d'autres visées, un autre but. Et si aventureuse qu'en fut la poursuite, ces sages avertissements ne me le feraient pas abandonner. Suivons-nous d'autres conseils d'ailleurs que ceux qui s'accordent avec notre caractère ? Je verrai bien, comme disait Bulose, où cela me conduirait, et si je rencontrerais partout des exigences analogues à celles qu'il m'opposait. Il semblait que nos relations devaient en rester là. Cependant, elles reprirent, quelques années plus tard, dans la « Notice sur Madame Aubernin », je dirai comment et à quoi elles aboutirent. H. M.